Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos motards engagés. On commence avec Christophe Tillemant, qui nous propose chaque mois un aperçu du sommaire du Moto Magazine de mars cette fois-ci. Bonjour Christophe.
Bonjour Lamiche, bonjour à toutes et à tous. Eh oui, mois de mars. Alors, je rappelle, il sort le 15. Alors, le 15, malheureusement, le bouclage sur le magazine de février était déjà sorti quand l'Enduropal s'est déroulé. Mais vous avez un gros dossier sur les 50 ans, évidemment, de l'événement. Et puis, ce Moto Magazine, je traiterai trois sujets qui font débat. L'émergence, que dire, c'est plus que l'émergence. Maintenant, ils sont quand même bien en place, les motos chinoises. Et donc, un comparatif de roadsters dans une gamme très, très demandée. Les roadsters 500, donc dans des plages de tarifs qui sont attractifs. Et donc, une Honda face à deux chinoises. Et on verra des résultats qui sont surprise. Un autre dossier concernant l'électrique. Alors, vous savez que ça me parle, l'électrique. Et donc là, Philippe Guillaume qui a fait donc une enquête un peu des forces en présence et des problématiques aujourd'hui qui sont posées. Ça fera aussi l'objet d'un débat. Et puis, pour terminer, un dossier sur un événement qui se passe chaque année tout près de chez nous, à Gédine. Je rappelle que c'est en Belgique. Alors, c'est pas très loin de Spa-Francorchamps, c'est au sud de Namur. Et donc, c'est un circuit routier qui a eu quelques vicissitudes, mais qui a renaît il y a quelques années. Et donc, ça tombe bien, on accueille un des participants qui nous en parlera en duo sur donc ce dossier concernant Gédine. Et puis, c'est la période des salons. Donc, on aura l'occasion de donner quelques rappels. Il y a eu le salon de Lyon et il y a bientôt le salon de Douai. Et d'autres, il y en a même un à Reims, mais c'est le même organisateur. Donc on en reparlera tout à l'heure.
Merci Christophe. Notre deuxième motard engagé, c'est Jean-Yves Ballois, le porte-parole de la Fédération française des motards en colère. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi je vais vous parler de l'actualité FFMC. D'une victoire, oui, on vit des temps un peu pourris, mais là on a fini.
Vous voyez que c'est rare quand même, Jean-Yves, une victoire.
Oui, justement.
Pour nous les motards.
Enfin, ça fait quand même 30 ans qu'on est dessus, alors... Ça montre que la persévérance paye, mais qu'il en faut.
Donc c'est la conduite Interfil.
La conduite Interfil, oui, justement.
Qui est désormais légalisée.
Légalisée sur tout le territoire métropolitain.
Voilà.
Et puis, je voudrais rappeler aussi que la lutte contre le CT continue, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser continuer des conneries pareilles. Et donc, là aussi, il va falloir montrer de la persévérance, mais... On sera aidé fortement par les concessionnaires contrôleurs qui trouvent que l'investissement commence à être un peu élevé pour le bénéfice qu'ils en tirent.
Donc le CT, c'est le contrôle technique.
Oui.
C'est pas terminé cette histoire. Encore,
terminé, non. Continuons le combat, comme disait l'autre.
Voilà, et on termine avec notre troisième motard engagé. C'est Daniel Torel, intoxiqué à la Custom Culture. Daniel, bonjour.
Salut la miche, salut le copain.
Je suis surpris, tu roules en trois roues maintenant.
Eh oui, me suis fait nickel.
C'est vrai, c'est la vieillesse ou...
Aussi. Aussi.
Des pertes d'équilibre peut-être.
Non, mais le biker vieillit.
c'est peut-être l'équilibre technique.
Donc, tu veux nous parler de cet engin alors, c'est ça?
Oui, tout à fait, d'un truc... j'ai rencontré un ovni, c'est-à-dire la moto à trois roues, comme quoi le biker vieillit vraiment. Et voilà, est-ce que c'est vendable? Est-ce que c'est intéressant? Vous verrez.
Alors il faut reconnaître qu'on ne voit pas sur la route. On en a vu au Tour de France, il y a quelques années,
c'est la moto officielle du Tour de France.
Ça l'est encore.
Oui, je suis curieux d'avoir ton avis.
Ça ressemble au Piaggio quand même.
Non, pas du tout.
Trois roues devant, deux devant, une derrière.
C'est comme si tu comparais l'Oana. Par exemple, avec Nikita Bellucci.
Je ne sais pas qui sont ces dames.
Tu demandes ça à Jean-Yves.
Excuse-moi.
Voilà, alors après, tu vas nous parler aussi de la chute de la Moco.
Oui, tout à fait, parce que vous connaissez mon engagement, moi, pour ce qui me concerne, sur l'aspect économique de la moto, dans son ensemble et dans le monde du custom en particulier. Donc, vous réexpliquez ce que c'est véritablement Harley pour désacraliser un peu le système et pour parler aussi un petit peu de ce marché qui est assez étonnant et atone.
Très bien. Et pour terminer, le délire des prix continue.
Oui, ben je ne sais plus quoi dire, puisqu'à chaque émission, je vous parle mon coup de gueule sur les prix, mais délirant. Maintenant, on vous annonce 30, 40, 50 000 euros pour un custom. Bon, ben pourquoi pas. Allons-y.
Et alors, y a Christophe qui te montre une page Motomag. Une machine qui a été vendue, je ne sais plus, j'ai vu...
1,32 million
oui,
de dollars.
1 million.
De dollars. C'est... Donc, 1,28 million d'euros.
Comme quoi, Harley et les custom bon, pas assez cher.
Le Cyclone 1915.
Voilà, c'est ça, oui. Bon, c'est une vieille moto, hein, quand même. C'est une voiture. C'est comme un tableau, hein.
C'est
un tableau d'un peintre, voilà. Voilà. Et notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est Bruno Perlinski, le trésorier des Amis de la Moto. Bonjour, monsieur le trésorier.
Oui, bonjour, Lamiche. Voilà. Bonjour à tous.
Approche-toi un petit peu du micro, voilà. Oui, très bien. Trésorier, c'est important dans une association, hein.
Ah ben bah oui, c'est comme ça qu'on voit si on peut organiser des rallyes, faire la course, sponsoriser les pilotes, etc. Hein. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre.
Hein. Oui, aujourd'hui tu vas nous parler du programme du Vintage Motor Show, la septième édition. Hein,
oui, c'est ça.
Qui va se dérouler dimanche prochain, 9 mars, salle Pierre Herman à Wascal.
Oui, tout à fait. Donc les entrées, c'est à partir de 10h jusqu'à 18h. L'entrée est à 3 euros. Il y a une petite buvette, un bar bien sûr, et puis à peu près une centaine de motos exposées, alors de tout type, hein, du Solex à la Vincent, il y aura des customs, des Harley, un peu de tout.
Vous prenez tout ce qui se présente.
Tout ce qui se présente, on choisit quand même.
Il n'y a pas de thème.
Non, le deux roues, c'est le thème. Donc on essaye tous les ans de renouveler le ce qu'on expose, hein. Ouais. Donc voilà, donc il y a à peu près une centaine de motos, des motos de course, des motos de tourisme, de tout.
Très bien.
Et une troisième roue, c'est accepté?
Bah, ça passe pas la porte, malheureusement.
c'est un problème d'encombrement de porte.
Il y a un très, très grand parking devant, voilà. Et donc ils sont les bienvenus.
Hein. Et puisque tu as entendu le sommaire du Motomag, il y a trois pages sur Gédine, hein, et je sais que tu participes régulièrement
depuis 20 ans.
Compétition.
Depuis 20 ans, à Gédine. Voilà. C'est la plus belle course moto que je connaisse. Hein. Une ambiance super, des très très belles machines, des pilotes de tous les pays. C'est vraiment l'événement faire, quoi.
On va en parler après dans l'émission. Voilà, très bien, merci Bruno. Voilà, vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com, je vous rappelle. Cette émission vous est proposée par l'association des motards de Kikinkout et Toupal. On se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. A tout de suite.
Shoes on his feet, begging the women for his bread and meat, and he's long gone.
Long gone.
He's long gone.
Lost John.
Long gone. Lost John. Well, Lost John went to a burlesque show. He got him a seat in the very front row. Girls came out to do their dance. They took him home in an ambulance, 'cause he's long gone.
Long gone.
He's long gone.
Long
gone, lost John. Thank you.
went to the railroad track, waiting for the train, never came back. Long he came, just hissing and a flying. He missed the cow catcher, but he caught the blind, and he's long gone.
Long gone.
He's long gone.
Lost Jones.
Long gone. Lost Jones.
Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches sur Campus à partir de 11h. Bruno, dimanche prochain, c'est la 7e édition du Moto Show à Westcal.
Vintage.
Oui, vintage, surtout vintage. Oui.
Voilà. Donc, c'est vraiment l'événement à ne pas louper. Hein. C'est tous les clubs donc, du Nord qui seront représentés, donc les Vieux Clous, le Caïman. Vous serez présent hein, avec un stand. Le Club Triton, le Team Rabbit, pourquoi pas nous. Et voilà. Quoi. Donc,
La salle va être assez grande pour contenir toutes ces associations motocyclistes.
La salle est un peu juste.
Oui.
Hein, mais bon, on n'en a pas d'autres. Donc, et puis comme la ville de Westcal nous la prête gracieusement.
Vous pourriez mettre un chapiteau peut-être le parking.
Oui, non, mais le parking est réservé aux motos. Donc sachez que si vous venez en moto, forcément, vous aurez une place garantie sur le parking devant la salle.
Voilà, il va y avoir une bourse d'échange aussi. Hein,
Il y a toujours une petite
comme
bourse. D'habitude. Il y a toujours une
Alors,
petite
à l'extérieur
bourse
et à l'intérieur aussi.
Oui, en fonction de ce qui sera à vendre. Quoi, hein. Il y a des gens qui arrivent avec plein de vieux moteurs, tout ça. Donc ça, on laisse tout à l'extérieur. Et après, les petites pièces, tout ça, c'est dans la deuxième salle, après les motos.
Très bien.
Tu pourrais définir le vintage à partir de quelle date
vintage, en fin de compte, on met vintage parce qu'on aime bien les motos, on va dire, un peu classiques. Quoi, hein, donc années 70, parce qu'on roule dans notre club, on roule tous avec ce type de motos, des Norton, des Triumph, des BSA. Mais pour cette exposition, on expose de tout, du début du siècle jusque, on va dire, les années 2000, quoi, à peu près. Hein. Mais c'est très éclectique, hein, y a tout.
Pas, pas que des motos anglaises, quand même.
Non, de la japonaise, de la française, du Solex.
Oui, du Solex. Ah oui, ouais, du Solex aussi. Ouais. Oui. Très bien, mais comment... est-ce que c'est complet là parce qu'on est à une semaine de l'événement? Est-ce qu'il y a encore de la place pour présenter sa moto? Ou c'est complet?
Alors, de la moto anglaise, comme dans le club, on en a beaucoup, c'est pas la peine. Mais par contre, de la japonaise des années 80, ça devient difficile à trouver. Hein, des TX 750, des XS, des Goldwing, des trucs comme ça. Ça, on en a pas, trop. Donc, si jamais vous avez une moto à présenter ou à exposer, vous nous appelez.
Il y a encore de la place?
Oui. On trouvera toujours une petite place. Pour une belle moto, alors on préfère bien sûr les motos qui sont dans leur état d'origine, hein, restaurées ou dans leur jus, mais bon, les motos d'origine, quoi.
D'accord. Comment on fait? On appelle les amis de la moto?
Sur le petit flyer.
Ouais, et puis c'est sur le calendar aussi qui clique un coup.
Et
aussi,
c'est sur le calendar avec la belle affiche.
La belle affiche, c'est du moto show.
Voilà.
Vintage. Voilà. Donc la bourse d'échange, comment on fait? On vient comme ça ou il faut aussi réserver sa place?
Vaut mieux me prévenir, et puis pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Hein, mais bon, on arrive toujours à se débrouiller. Hein.
Bon, donc moi je connais un peu la salle. Donc il y a la première salle où les motos sont exposées.
Les motos sont exposées.
Et la deuxième qui est derrière où on peut vendre des pièces. Donc. Voilà. Mais il y en a aussi dehors aussi, sur le parking.
Voilà.
Hein.
Dehors, et puis il y aura aussi des marchands comme Pop Gun qui vient tous les ans. Voilà quoi. Et surtout, petite restauration et un bar.
Oui, bien sûr.
À la miche.
Bon, c'est payant si on veut vendre des pièces?
Non, pour la bourse?
Oui, pour la bourse.
Non, pas du tout, c'est gratuit.
C'est gratos?
Non, il faut simplement me prévenir et puis on réserve un emplacement.
D'accord. Pour exposer sa moto aussi, c'est gratos?
Bien sûr. Bon. Et si on expose sa moto, on a un sandwich, quelques boissons, un petit café. Donc bon, ça peut être intéressant.
Boissons, ça c'est pas mal.
Mais c'est le trésorier qui parle. Hein, donc ouais. Il dit un petit café. Voilà. Ouais,
non.
C'est combien l'entrée pour les visiteurs ?
3 euros. C'est pas cher, c'est anecdotique.
Hein, donc c'est que le dimanche. Hein.
C'est que le dimanche à partir de 10h, 10h, 18h.
10h, voilà. 18h, donc dimanche prochain, donc à Wascal. Parle-nous un petit peu des amis de la moto, du VMA 2024. J'ai vu
2024,
ça sur le site. Là.
Oui, voilà. Donc
Bruno Paninski, champion de France avec une Norton Silly.
Ouais, c'est ça, avec une Norton. Hein. Ouais. C'est comme depuis 20 ans, toujours avec les mêmes motos, les mêmes moteurs. Et puis voilà. Ouais. Donc, mais malheureusement.
Encore champion du monde, encore.
Champion de France. du monde. Et malheureusement, le fils donc nous a pas. Nous a pas rejoint l'année passée.
Alors, voilà, je voulais parler un peu de Steve, hein, qui alors première édition à l'Eco-Rice. Hein,
Le Monaco Dakar, ouais. Hein, donc l'ancien tracé, 6000 km de désert sur 12 jours de course. Donc il s'est acheté une KTM et puis il nous a fait donc ce rallye. Hein, on l'a suivi pour faire l'assistance. Bon, c'est très 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 chaud. Alors, dans tous les sens du terme.
Qui termine 14e.
Oui, 14e.
Chapeau. Hein.
Oui, il nous a épaté.
Pour une première. Hein.
Trois fois dans le top 10 sur les spéciales.
Voilà.
Une belle expérience. Content que ça soit aussi terminé sans gamelle. Ouais. Entier, on va dire.
Hein. Entier, oui. Et toi, tu as fait le mécanicien. Tu as suivi Steve durant toute la course.
C'est ça. Donc nous, on est partis avec un fourgon. Et puis, je faisais donc la mécanique pour trois motards. Hein, donc l'assistance, on transportait donc les pièces, les pneus, 30 pneus sur le toit. Et puis voilà, donc tous les jours entre 500 et 700 km. Donc une sacrée aventure.
Très bien. Eh bien écoute, moi, je te propose de faire une émission complète. Hein,
pas de souci, il y a de quoi.
C'est une belle aventure, ça, quand même. Hein, une première. Et voilà. Et tiens, on revient un petit peu sur les amis de la moto, du programme, parce que aussi, le dimanche prochain, c'est le Vintage Moto Show. Mais le samedi 5 et dimanche 6 avril, c'est le rallye de printemps.
Oui.
Alors, réservé à qui ?
Pareil, sur le site. D'ailleurs, on parle du téléphone.
Il y a un site internet. Hein, voilà, on fait les amis de la moto.
C'est les amis de la moto 59.
59, hein.
Voilà, il faut taper ça. Et donc, on tombe sur le site des amis et là les formulaires sont en ligne hein. Donc c'est une petite balade de 2 jours, on part le matin, on fait à peu près 150 km le matin, un petit resto, l'après-midi 150 km, un gîte et pareil le dimanche quoi. Voilà, c'est très très sympa, donc c'est réservé aux motos on va dire jusqu'aux années 80.
Oui. Ah oui, pas plus. Hein,
pas plus, non, on est une cinquantaine à peu
près. On n'est pas accepté si on est au-dessus de 80.
Pour une première édition, rien que pour voir l'ambiance, on vous accepte et puis après vous trouvez une vieille moto quoi. C'est tellement plus sympa en vieille moto, rouler à 90 sur les petites routes, au roadbook. C'est donc au roadbook.
Ah, c'est roadbook,
C'est roadbook. Tout le monde a un roadbook. Donc, on ne roule pas tous ensemble. On roule par petits groupes. Et c'est bien sympa. On a tous les points de chute. Et voilà.
Il y a combien de participants les autres années ?
C'est toujours autour de 50. Hein. 50, 55. Bon, on essaie de limiter parce qu'après, c'est dur de trouver des gîtes pour plus de 50 personnes.
Ah oui, c'est ça le problème.
Ouais, ça, c'est le problème.
Ouais. Ok, très bien. Bruno, je sais pas, on ajoute quelque chose ?
Venez
dimanche déjà.
Vite à la semaine prochaine et puis prochaine, venez nombreux. Hein.
Voilà. Hein.
Vous venez en moto, on vous offre un café. Hein. Pas de souci.
Ah, si on vient en moto, un café.
Oui, pas de souci.
Bon, très bien. Donc on rappelle, l'entrée c'est 3 euros. Hein.
3 euros l'entrée.
Donc c'est salle Hermann.
À Wascal. Hermann,
c'est Hermann, on dit
Hermann.
Voilà, à Wascal. Hein. C'est facile à trouver.
Oui, c'est dans le centre-ville.
Dans le centre-ville.
Derrière le commissariat.
Il vaut mieux venir en moto.
Ouais, il y aura pas de
c'est
contrôle.
Préférable.
Il y aura pas de contrôle pour le contrôle technique. Hein. D'ailleurs, j'en ai pas encore vu. Hein. Non mais c'est derrière le commissariat pour les gens qui connaissent un peu Wascal.
Ah, c'est juste derrière le commissariat. Ouais. Voilà, vous tapez sur Oise ou n'importe quoi, on map commissariat de Wascal et c'est juste la salle SE, je trouve juste à côté à peu près.
Tout à fait.
Voilà, très bien. Merci Bruno. I'm not afraid to die. Le magazine de la moto tous les dimanches, c'est sur Campus 106,6. Christophe, on parle de Gédine dans Motomag de mars.
Oui, alors ça tombe bien.
Alors Gédine, il faut préciser ce que c'est aux auditeurs, hein, ceux qui ne connaissent pas.
Oui, alors c'est en Belgique. Il faut rappeler historiquement, la Belgique est une terre de motos anciennes et de circuits routiers. Alors des circuits permanents, on connaît Francorchamps ou Zolder, mais il y a eu, on apprend dans l'article donc consacré à Gédine, 29 circuits routiers qui existait avant-guerre. Et il y en a eu 59 après-guerre. Donc vous imaginez, alors depuis, bon, Chimay, qu'on connaît bien, hein, pour d'autres raisons, Mété, Fleuref ont fermé. Mais Gédine a passé le cap avec quelques vicissitudes. Alors ça tombe bien, on a Bruno, là, qui est dans notre studio, qui a participé et qui participe toujours à Gédine, avec qui on échangera. Donc Gédine a été un circuit de vitesse, donc jusqu'en... à partir de 47, pardon. Et puis suite à un accident en 1950, et le décès donc d'un concurrent, bah ça s'est arrêté. Et le renouveau, bah c'est 25 ans plus tard, en 1987, donc la création d'un circuit routier qui va, donc sous l'impulsion de son président de l'Automoto Club, pardon, de local, se développer et se poursuivre avec bon, des adaptations. Et aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que pour le village, c'était pas toujours bien vu, hein, voir passer les motos. On connaît l'île de Man et le Tourisme Trophy. D'ailleurs, au départ, ça s'appelait Belgique Classic Tourist Trophy.
Oui, c'est ça.
Ils ont été obligés de supprimer le touriste parce que ça faisait trop penser au Titi. Donc, pendant le temps d'un week-end, c'est l'effervescence autour de Gédine sur un circuit de 5,5 km. Alors, tu cours ou tu assistes ?
Non, je cours.
Je cours depuis
87.
Ça, c'est une insulte, Christophe.
C'est une insulte.
Il nous parlait à Bruno, par ainsi dire.
Licencié depuis 25 ans.
Non, franchement. Non, il court.
Avec une Norton, bien sûr.
Oui, Norton.
Où court-il? Alors. Donc mais la particularité du circuit,
c'est un circuit naturel.
Naturel, absolument. Hein, donc, accidenté.
Oui, c'est ça, des montées, avec des descentes,
des épingles,
un bois, des poteaux sur le côté, mais tout est bien protégé. Hein, et on roule forcément un petit peu en dessous de ce qu'on ferait sur un circuit, un vrai circuit. Quoi.
Oui. La moyenne du tour, c'est quand même 130 km/h pour les plus rapides. Et même des motos très anciennes donc, qui tirent un 100 km/h, 105, là, je lis dans l'article. Ouais. Et donc, protégé. Bon, malheureusement, je sais qu'il y a quelques années, il y a encore eu des accidents.
Ouais.
La particularité aussi, c'est qu'il y a des sidecars. Et ça, c'est spectaculaire. Il faut reconnaître.
Tout à fait. Oui, c'est un week-end où il y a vraiment toutes les catégories qui sont représentées. Ce que tu as peut-être oublié de dire, c'est que c'est toujours le troisième week-end du mois d'août, les ans.
Voilà, année, c'est le 22, 23, 24 ou 23, 24, 25. Enfin bon, c'est toujours dans ces eaux-là.
C'est une période où il fait en général très beau. Pour le spectateur, il y a des endroits partout le long du circuit où on peut regarder.
Voilà. Et puis il y a l'immense pâture, camping,
face,
en fait.
Tout juste devant la ligne de départ.
Voilà.
Et de l'autre côté, il y a le bar. Quand vous êtes au bar avec une bière...
Et le paddock.
Et le paddock, bien sûr.
Il y a le paddock bar.
Le paddock est au milieu du circuit, donc. Hein. Et du bar, on voit les départs de toutes les courses. C'est vraiment chouette. Hein.
Oui,
c'est un très bel événement.
C'est l'ambiance qui règne. C'est vraiment une ambiance...
Un concert. Tous les ans, il y a un concert. Et d'ailleurs, cette année, c'est Hot Chicken, un groupe régional qu'on connaît tous. Au niveau ambiance, il n'y a pas mieux.
Oui, tu parlais de la sécurité. Donc, effectivement, il y a plus d'un millier de ballots de paille qui sont répartis sur le circuit.
Oui, devant les
poteaux. Il y a 85 commissaires de piste et il y a 22 postes différents donc de sécurité qui sont
répartis tout au long du circuit.
Absolument. Alors, moi, chaque fois que j'y suis allé, effectivement, je suis resté au niveau des paddocks, dans les passages devant le camping.
Oui.
Mais c'est vrai que quand je lis la vallée, alors je ne sais plus son nom, où il y a sur 29 mètres, tu descends de 29 mètres sur 300 mètres, donc après une épingle, c'est particulièrement spectaculaire. Donc, en tant que spectateur, on peut circuler, remonter le long du circuit, il y a des espaces...
On traverse des champs. Et il y a des endroits qui sont prévus hein, tout le tour du circuit pour les spectateurs.
Et donc il y a des épreuves qualificatives en quelque sorte.
Et c'est chrono et deux courses, hein, une le samedi et une le dimanche.
Et Christophe, il faut ajouter que c'est le seul circuit où les vaches regardent les motos passer.
C'est fou.
Hein,
c'est
vrai, Bruno.
D'ailleurs, il faut faire attention avec le fil à freiner hein, quand on le coupe, parce qu'après, comme c'est le paddock est dans la pâture, il faut faire attention.
Alors, la dernière édition, il y avait 429 machines qui étaient. Il y avait 75 sidecars et tout à l'heure je disais que c'est effectivement spectaculaire. Moi j'avais été impressionné parce que j'étais parti avec le Team Rabbit et donc dans les concurrents il y avait un monsieur très âgé qui roulait toujours en sidecar et puis c'était le trésorier justement du Team Rabbit à l'époque qui faisait le singe. Et donc c'était vraiment spectaculaire. Je vous engage, alors tu parlais d'épreuves internationales. Effectivement, c'est très prisé par les Anglais qui viennent se mesurer.
Ils aiment bien les circuits naturels en fin de compte. Hein. Donc le Tourist Trophy, le Nord-Ouest 200 et donc la Belgique où ils viennent en nombre à Chimay et à Gédine.
Il faut préciser que ce n'est pas une démo, hein. C'est une course.
Non,
c'est un classement.
Hein. C'est une vraie course. Il faut une licence, etc.
Absolument. Ouais. Et des Polonais qui sont chers à mon cœur, effectivement, qui n'ont pas de circuit dans leur pays et qui sont prêts à faire 1500 km pour venir.
Et le plateau est impressionnant. Hein. Il y a DMV, Zermaki, Matchless, des Norton Mans. Donc, c'est vraiment de très, très belles motos et des gens qui ne font pas de la figuration, des vraies courses. Quoi.
Là, on est carrément vintage, là. Hein,
c'est limité, quel âge pour les motos?
1972. Voilà. De 50 à 750 cm3. Donc, vraiment, si vous avez... si vous n'êtes pas en voyage à ce moment-là, je vous engage vraiment à faire le voyage.
Une ambiance extraordinaire.
À participer aussi au concert et puis aux remises des trophées, parce que visiblement, les photos de l'article montrent une ambiance détendue. Hein, c'est, ça, c'est clairement, ouais, c'est combat sur la piste, mais au paddock, c'est copain.
Le soir, oui, ça doit, avoir, il doit y avoir une bonne ambiance.
Ah oui, bah, c'est la Belgique. Hein. La Belgique, oui. ils savent ouais. faire.
C'est ouais. qui le président donc, du...
Ah donc, c'est Eddy de Keyser, le président du CRMB.
CRMB, hein,
ouais. Qui organise donc tous les ans cette course.
Voilà, voilà. Et qui porte le nom d'ailleurs de celui qui l'a remis au goût du jour dans les années 80, Antoine Schmitt, dont les enfants ont repris, Jean-Paul et Marie et Julie ont repris la conduite. Il y a des circuit. Installations d'ailleurs qui sont permanentes hein, sur le circuit.
Ah oui, le bar. Et,
voilà, entre autres.
Le paddock bar.
C'est le paddock bar, hein, c'est ah, ça.
C'est,
hein. ça.
Ouais. C'est le nom ouais. du...
Et le camping, enfin, où on peut planter la tente, c'est quoi c'est une pâture ou c'est,
oui, c'est, une
ou
pâture.
C'est vraiment un camping
non, c'est une pâture.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment les commodités
Si, il y a des sanitaires hein, qui sont ramenés hein, pour l'événement.
Non, c'est
hein.
parce que si tu viens avec la copine, tu sais, quelquefois, il y a...
Ah, c'est un petit peu...
C'est une femme qui veut avoir un peu plus de...
C'est un petit peu roots,
de confort,
dire, hein.
De confort, tu vois.
Voilà. Et une question, c'est où, Gédine?
Alors, c'est les Ardennes belges.
C'est juste après l'incursion de la France avec JV.
Voilà.
Tu vois, tu passes le long de la frontière et quand tu traverses... Donc, tu es en Belgique et quand tu traverses la France, juste derrière, tu reviens en Belgique et tu es à Gédine. Ah, donc, c'est au sud de Namur. Ouais,
ça fait quoi, 180 km?
Voilà, il y a 3 heures de balade.
Heures de route,
en y allant tranquille. Donc,
très bien.
Vraiment à découvrir.
Si vous voulez connaître la date de Gédine, mais pour 2025, c'est simple. Vous prenez le calendrier des motoclubs et c'est dans la page, dans les pages classiques. Voilà, on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Show me home.
Voilà, toujours dans le sommaire du Moto Magazine du mois de mars, Christophe, un comparatif roster,
oui.
Chine 1, Japon 0. C'est quoi cette histoire?
Eh oui, au moins, ça parle, c'est direct. Hein. Non, mais c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je vous parle donc dans les éditos de Moto Magazine de ces sujets consacrés aux motos chinoises. Donc, on n'en est plus à l'émergence. Là c'est un tsunami hein, dont on est en train de nous parler. Je vous rappelle, le mois dernier, je parlais du retour du salon de Milan. Et donc, effectivement, Philippe Guillaume, qui était présent et qui relatait son passage sur le salon, avait prévenu déjà avec l'enquête qu'il avait menée sur justement le développement des motos en Chine. Je rappelle aussi qu'il y a eu deux motos qui ont une Zontes et puis une CF Moto qui ont été utilisées sur de longues durées, qui sont avérées très, très qualitatives. Alors là, justement, pour prendre donc le comparatif Roadster, eh bien, ils sont allés chercher en fait deux marques, bon, CF Moto qu'on connaît et QJ Motors, qui sont bien connues sur le plan des marques. Pour la confronter donc à la Honda CB 500 Hornet, donc dans cette gamme de motos entre 5500 et 6500 euros, donc des séries de roadster de 500 cm3. Et vous risquez d'être surpris dans le chapeau de fait par Axel l'essayeur. Donc pour ce faire, je vous rappelle que les essais sont toujours faits évidemment avec les journalistes, mais aussi avec des lecteurs essayeurs qui viennent donner leur avis et bah, il faisait un peu la fine bouche. Hein. Quand on vous dit parler chinois, bah, on peut rester. Même Axel reconnaît qu'il est resté sur sa longue vie d'essayeur. Il a connu les motos chinoises 125 et moins, où là, c'était du jetable. Hein, carrément. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est un peu la question qui reste posée, finalement. On discutait tout à l'heure en antenne de la problématique posée. Mais sur les plans des essais, ce comparatif donc, porte sur différentes thématiques. L'ergonomie, bon, et là, Honda, bah, ils savent faire, hein, effectivement. L'équipement, et là, c'est là où on voit que les Chinois ont largement rattrapé leur retard, puisque de toute façon, les équipements des motos chinoises sont premium en matière de freins, notamment de suspension. Et c'est là où Honda prend du retard avec sa moto. Alors peut-être qu'aussi c'est un positionnement tarifaire hein, pour rester accessible. Eh bien en dynamique et en moteur, eh bien la Honda marque le pas. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez eu l'occasion d'essayer des motos chinoises et en l'occurrence ces modèles-là? Bon, alors moi je n'irai pas l'essayer parce que la CF Moto c'est une petite 125.
Hein, donc, bah, c'est-à-dire que
c'est pas mon format.
Moi, j'en ai vu défiler en stage parce qu'effectivement, pour les nouveaux permis, c'est vraiment plus cher. Mais question fiabilité, y a un Toubib qui s'était jeté une 125 chinoise. Il a fait un premier stage la première matinée, sa moto est tombée en panne, donc on l'a reporté à un stage suivant. Et là, c'était pareil, la bécane est tombée en panne à la fin du premier jour. Donc, c'est en 125, c'est pas encore très fiable, à mon avis.
Oui, alors effectivement, donc le problème du réseau, et c'est tout à fait ce qui est évoqué dans le courrier des lecteurs par deux lecteurs, donc, qui eux-mêmes ont réagi en fait à l'article dont je parlais tout à l'heure sur l'enquête qui avait été menée, et qui disait, alors il y a plusieurs facteurs hein, aujourd'hui qui peuvent freiner de s'orienter vers les motos chinoises, et faut-il acheter chinois? C'est d'ailleurs un article de conclusion qui est offert dans ce comparatif. Bah, c'est la façon dont ces machines sont produites. Hein, bon, avec évidemment un dumping social qui n'est pas tout à fait à l'égal de ce qu'on pratique en France. Si on devait aujourd'hui fabriquer plutôt ces machines en France dans les conditions de la Chine, c'est sûr qu'au niveau social, ça serait autre chose. Mais là on verra effectivement dans les années ou les mois, parce qu'ils vont très très vite.
Oui.
Il y a quand même 3 ans, 4 ans, on n'en était pas encore là. Et aujourd'hui, ils inondent. Il y avait le mois dernier, sur une base moteur, la déclinaison de toutes les machines de toutes marques.
C'est le dessin de Nicolas. Sur celle-là, qu'est-ce qu'on met comme autocollant? Quelle marque on met comme autocollant?
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, justement, dans le « Faut-il acheter chinois ?» donc à la fin de l'article, c'est les chiffres qui sont donnés par l'officiel du cycle par rapport à la réaction des professionnels, et qui, donc, à 74%, donc ça fait quand même 3 concessionnaires sur 4, qui distinguent l'intérêt que portent leurs clients sur les motos chinoises. Donc, il y a une demande, 47%, excusez-moi, 47%. Par contre, ils sont 3 concessionnaires sur 4 à estimer que la qualité aujourd'hui des motos chinoises, force est de constater qu'elle est là. Ça, c'est l'observation donc, de l'officiel statistique de l'officiel du cycle. Et 54%, et c'est ça qui est important, c'est 54% de ces concessionnaires qui seraient prêts à franchir le pas pour intégrer dans leur distribution donc, des motos chinoises pour répondre à la demande.
Ça, le problème, c'est le réseau aussi, Christophe. Oui.
Alors,
le réseau...
C'était toujours pareil.
Alors, le réseau, mais justement, je disais tout à l'heure en off, on a eu la présentation d'une BM et d'une Vogue qui ont les mêmes attributs. D'ailleurs, on regardait bien, moteur et châssis étaient absolument identiques. Donc après, la différence, elle se fait où? C'est-à-dire que pratiquement, c'est un peu comme Dacia et Renault. Quoi. Les Dacia roulent avec des moteurs Renault, tu fais entretenir ta Dacia chez Renault.
Si tu tombes en panne, il te faut changer une pièce. Si tu attends la pièce pendant 3 mois, tu ne peux pas rouler parce que justement, ta moto est immobilisée.
Je te dirais que c'est le cas chez KTM actuellement.
Tu prends le cas extrême, Jean-Yves. Bien sûr. Même si la moto n'est pas chère à l'achat, neuve, après, si tu as des soucis pour pouvoir avoir les pièces et faire tourner ta machine, ça c'est autre chose.
Oui. C'est toujours pareil pour les jeunes permis et les jeunes qui n'ont pas la culture moto, qui n'ont pas la culture des grands exploits, des beaux moteurs, ni la culture mécanique. Ce qu'ils regardent, eux, c'est le prix.
C'est le prix, oui.
Ils se sont saignés aux 4 veines pour avoir le permis.
On comprend très bien, oui.
Et puis, c'est tout. L'équipement, il est réduit au minimum. Casque à 60 euros, gants de ville en laine, tricoté. Mais... le problème, c'est qu'une mécane qui est 3 fois moins chère chez les Chinois pour la même chez BM ou autre, le choix est vite fait.
En matière de consommation, toute la démarche, je sais pas, concernant les téléphones portables, l'électroménager, on en arrive
c'est la
là.
Même chose.
Est-ce qu'on est prêt finalement à payer plus cher pour des choses qui sont fabriquées de façon éco-responsable, on va dire, hein, si on veut. voilà. Donc c'est bien complexe. Maintenant, Dan, tu faisais constater tout à l'heure effectivement les difficultés que vont rencontrer les concessionnaires. Il risque d'y avoir une grosse casse sociale chez les concessionnaires, d'une part, parce que les ventes s'écroulent. Je donnerai tout à l'heure quelques chiffres de ventes, et chez les fabricants. Tu parlais des États-Unis, qui va être contraint finalement de fabriquer chez eux leurs produits plutôt que de délocaliser avec la nouvelle présidence.
Et en Chine.
Voilà.
C'est le cas actuellement, mais il n'y a pas que. Mais ce que tu dis est véritablement important. Par contre, il est à noter que l'émergence de ces marques correspond aussi à une gourmandise accrue et forcenée des marques premium. C'est-à-dire que quand on voit ce qui reste aux concessionnaires, ce qu'on leur impose en termes de finances, d'implication et de marge...
De showroom.
Et voilà, à un moment donné... ce sont aussi des gens comme nous tous qui sont passionnés de moto et qui se disent « Mais attendez, vous êtes en train de nous pressurer sur vos ventes, sur votre stratégie marketing, etc. Et on gagne de moins en moins notre vie et on doit dépenser de plus en plus. » Les Chinois ont tout compris du business, je suis désolé. Ils disent « Bah nous, on vous offre des systèmes économiquement parlant qui vont multiplier par 2 ou par 3 vos ventes et à marge équivalente, vous aurez infiniment plus de rentabilité sur votre surface de vente qu'avec votre marque premium. » C'est un élément important. C'est pour ça que globalement, tu as un concessionnaire sur 2 qui dit « Demain, je vais regarder attentivement ce que les Chinois ou autres proposent. »
Voilà, donc à découvrir dans le Motomag. C'est d'ailleurs la page de couverture, comparatif Roadster, Chine 1, Japon 0. Un dossier qui est dans la continuité de tout ce qu'on a déjà dit sur le sujet.
Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches et sur Campus à partir de 11h dans le Motomag du mois de mars. Christophe a un dossier électrique.
Oui, donc on revient effectivement sur tout ce qui se fait aujourd'hui en deux roues électriques. Alors on commence déjà dans l'article de Philippe Guillaume par donner quelques repères. Aujourd'hui, l'électrique en 2024, c'est 4,5% de part de marché dans le marché du deux roues. Donc on discutait avec Dan là, des ventes. On est à 202 533 deux roues vendues en 2024. Donc 4,5% pour le marché de l'électrique. D'ailleurs, à titre de comparaison, le marché pour la voiture, c'est 16,9% de part de marché en automobile. Il faut voir que dans les 9000 des brouettes là, que je viens d'annoncer de vente, il y a un quart de ces ventes qui sont constituées par les scooters de BMW, le CE02 et le CE04. Voilà. Ceci étant dit, Philippe s'est livré donc à l'analyse de quelques productions divers et variées. J'en ai découvert d'ailleurs concernant ces deux roues électriques. Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché ? Alors, il y a un éclairage qui est fait par un expert sur le rétrofit. Alors, je savais que ça existait, parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer un gars qui faisait ça. Alors, c'était pas encore sorti, hein, puisque l'homologation aujourd'hui doit être obtenue sur un règlement qui est sorti le 3 avril 2020. Donc, vous voyez, ça fait à peine 5 ans. D'ailleurs, je pense que la France est le seul pays à avoir mis en place des règles pour justement réaliser ce rétrofit. Hein, donc, ça passe par une puissance qui doit rester limité donc entre 40% et 100% de la puissance d'origine. Ça passe également par les dimensionnements du deux roues qui ne doivent pas changer, la masse à vide qui ne doit pas être supérieure de plus de 20%, et la répartition des masses qui doit être conservée à 10% près, ainsi que la masse totale en charge inchangée. Donc voilà, ceci étant dit, on peut se lancer dans le rétrofit.
Donc, surtout pas.
Alors, c'est pour ça que j'avais intitulé cette séquence Le débat.
Au fait, il faut mettre une batterie de 60 kilos.
Ouais. Alors, il n'y a pas de place.
Et un réservoir de 20 litres, alors un litre d'essence, Jean-Yves, ça fait combien? Ça fait un kilo?
C'est moins.
C'est moins?
Ouais,
voilà.
Oui.
Bah là, bon, tu enlèves ton réservoir et tu mets une batterie de 60 kilos déjà pour.
Non, ne confonds pas kilo et kilowattheure.
Oui, non, mais.
Oui. C'est ça le problème.
Non.
Un kilowattheure ne fait pas un kilo.
Non, je ne te parle pas de ça. Adapter maximum légal une batterie de 60 kilos sur une capacité maximale théorique de 12 kilowattheure. Voilà. Donc, il faut déjà avoir une batterie au moins de. Qui va peser déjà 60 kilos pour avoir 12 kilowattheure.
Voilà. Et jusqu'où, effectivement, peut-on rouler avec ce genre de véhicule?
Tu fais 120 km avec.
C'est tout le problème. Bon, je rappelle, j'ai partagé. Il y a 10 ans, d'ailleurs, on avait fait une émission sur l'électrique. J'avais acheté un scooter que j'ai plus. Hein. Mais effectivement, j'ai essuyé les plâtres. Donc, je rappelle que j'avais acheté un scooter électrique pour faire du commuting. Donc, il y a maintenant presque 20 ans, hein, pas tout à fait, que j'ai gardé pendant plus de 10 ans, mais avec lesquels j'ai eu quand même pas mal de soucis.
Alors, il y a une norme en France maintenant pour ce rétrofit, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis quand on parle de poids, il ne faut pas non plus placer très haut, parce que tu sais très bien que Jean-Yves, si tu mets du poids très haut, ça risque d'induire, c'est dangereux pour la conduite.
Donc
une batterie de 60 kg, quand on met 60 kg sur une machine, il faut mettre le plus bas possible.
Le problème en rétrofit, c'est qu'effectivement un moteur électrique à puissance égale d'un moteur thermique, il est beaucoup plus petit, il y a du couple très vite. Mais le problème, c'est qu'il faut alimenter ce moteur électrique.
Et voilà.
Et c'est là le gros problème. Il n'y a pas l'autonomie, il y a le poids, il y a des tas d'obstacles. Et puis en plus, philosophiquement parlant, je considère une vieille bécane comme une œuvre d'art, une sculpture de métal. Et s'amuser à la défigurer pour foutre des trucs électriques dessus, c'est pas bien.
On en parlera tout de suite après, effectivement, dans les quelques modèles qui sont présentés par Philippe. Mais je termine donc avec l'interview de Benoît Lacoste, donc cet ingénieur automobile expert, qui nous parle aussi du positionnement tarifaire. Parce que, bon, admettons qu'on ait réglé le problème de la batterie, problème du poids. L'autonomie, forcément, elle reste quand même, on le sait, limitée. C'est surtout le coût de la transformation. Et donc là, entre le moteur électrique, le contrôleur électronique, la batterie, évidemment, les équipements électriques et ensuite l'intégration, on en arrive au bas mot à un matériel embarqué approchant les 4 500 €. Et puis quand il faut donc travailler dessus, l'outillage, la fabrication, les essais d'homologation, etc., on peut doubler ce tarif. Donc, même à 4 500 €.
Dans Motomag, c'est marqué 9 000 balles.
Oui, 9 000 €, tout à fait.
9 000 euros pour faire un rétrofit.
Oui.
Donc, il va défigurer aussi ta machine, hein, Jean-Yves.
C'est là le problème. Ouais. Mais, et en plus, le truc gênant aussi, c'est que toi, tu peux pas fabriquer toi-même ta bécane électrique. Hein. Il faut passer par les fourches Codine. C'est exactement le même système que les kits E85 sur les voitures ou sur les motos. Le mec se goinfre littéralement. Ça lui demande une heure de boulot. Il te réclame 1000 boules pour ça, pour pouvoir mettre un kit E85.
Alors, c'est tout la difficulté, justement, du positionnement artisanal, voire passer au stade industriel. À cet égard, je roule en Twingo, Dan aussi d'ailleurs, leur moto qui est une société normande, qui aujourd'hui est constructeur automobile, il a les homologations et qui rétrofite donc les Twingo de la première génération, et encore c'est les derniers modèles de la première génération, hein, puisqu'elles ont l'ABS alors que les anciennes ne l'ont pas. Donc voilà, mais en moto, justement en parlant d'artisanat, la première présentation c'est le rétrofit des cyclomoteurs, des Solex.
Les Polini.
Voilà. Où est le kit Polini? Bon, et donc on nous présente ces créateurs. Donc, qui ont créé leur société Noil, pour No Oil, beau jeu de mots, qui font rouler des 103 avec ce kit électrique.
Et après, je ne vous parle pas de l'autonomie. Hein.
Oui.
Autonomie, c'est, C'est, les constructeurs annoncent 180 km. Mais vraiment, si on roule correctement, c'est plutôt 120 km.
Rappelez-vous, encore une fois, un sujet que j'avais abordé avec la Lightwire, la première Harley électrique. Ils annonçaient 180 km d'autonomie.
Absolument.
J'ai fait 80 km péniblement avec la pétoche pour le retour.
C'est pas possible. Alors si, Christophe, en ville, urbain ou périurbain peut-être.
Oui, tout à fait.
Encore 80 bornes.
En commuting, oui, si. Oui. Tu la charges tous les soirs comme ton téléphone portable.
Tout à fait, le commuting, c'est le cas de la présentation donc, d'un rétrofit d'une ancienne, donc là en l'occurrence BMW, qui a été fait. Alors c'est amusant d'ailleurs parce que Moss, c'est By Moss, c'est le nom de la société, et donc c'est Mostafa qui s'énervait de ne pas pouvoir aller conduire avec son Land Rover ses enfants à l'école, et donc qui a rétrofité son Land Rover, Defender. Et donc, il a décidé de créer sa société et de faire la même chose sur la moto. Et donc, là, en l'occurrence, une BM de la R45 à la R100, il reprend complètement la moto. Un bel objet. Bon, maintenant, on en juge la qualité des photos et de la présentation. Mais il a une BM électrique donc, qui peut rouler en ville, à le stationnement gratuit à Paris, Vincennes et je ne sais plus quelle ville de l'Île-de-France. Mais bon, coût, 19 000 euros. Et pour donc des autonomies qui tournent autour de, effectivement, 100 à 150 km, même si la batterie, concernant le nombre de cycles de recharge, est donnée pour 160 000 km.
La boucle arrière, là, est strictement à vomir. On croirait un assemblage de spaghettis plus ou moins.
Et puis aussi le problème de la recharge. Chez toi, peut-être que tu as un garage, mais pas forcément où tu habites. Tu as un garage que tu loues et que tu n'as pas forcément d'électricité dans ton garage. Et comment tu fais pour recharger la batterie la nuit de ta moto ?
Tu ne peux pas si bien dire, la miche, puisque c'est justement l'objet de la page suivante, où Philippe donc, se fait prêter une Yadea Camper, je ne connaissais pas, 10 000 euros, qui semble avoir quand même toutes les qualités requises pour ça. Et malheureusement, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu pour lui. Il habite en appartement. Les bornes du Monoprix en bas de chez lui, elles sont disponibles. Oui. Mais sauf que sa carte bleue, elle a été refusée. Donc, il s'est retrouvé macache avec l'angoisse de la panne et un essai qui s'est effectivement limité.
Il faut 30 kW de charge pour pouvoir charger assez rapidement la batterie de la moto.
Oui, et on lui prête la moto, il n'y a pas le câble de recharge.
Il n'y a pas le câble.
Il n'y a pas d'emplacement pour le mettre.
En plus, souvent.
Il y a déjà beaucoup de problèmes dans la vie. Alors, si je pense qu'il faut encore se mettre des soucis avec Wayne, alors là, je pense que c'est compliqué.
Bon, page suivante, la Live Wire. Donc, Alpinista, donc 19 000 euros, Watt et Fun, mais bon. Autonomie, testée, Dan.
Non, c'est la première, parce qu'ils ont sorti la Delmar.
La Delmar, oui.
Voilà, ça c'est la dernière, deuxième génération.
Oui, tout à fait, Delmar.
On est toujours dans les 80 km.
Bon, mais est-ce qu'effectivement, on met ces tarifs-là pour faire du commuting, parce que c'est clairement pas des motos de voyage, même s'il y a eu quand même, je pense, un Hollandais qui était parti avec une C0...
Oui, bien sûr, on peut voyager au Cap Nord. On en a vu, Jean-Yves. Ouais. Donc, des gens qui sont partis au Cap Nord en moto électrique. Mais d'abord, tu fais bien ton plan de route parce qu'il faut tomber sur les bornes et puis il faut aussi doubler ton temps de voyage.
Rappelez-vous, il y a 10 ans, le gars qui avait traversé les États-Unis avec son Vectrix, c'était quand même. Il l'a fait. Mais avec 50 km d'autonomie.
Oui, bien sûr qu'on peut faire.
Il y a un élément important. Rappelez-vous, la première, la Lightwire, la première génération, c'était quand même 35 ou 36 000 euros. En France, ils s'en ont vendu deux. Ce sont deux concessionnaires qui ont été obligés de les acheter. Et celle-là, on est à 20 000 euros, je crois, à peu près.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, les ventes restent encore confidentielles. Et ce n'est pas vrai ce qu'on vient de dire, qu'on va relancer les ventes. Enfin,
ouais, ouais, c'est mon avis, mais bon, maintenant, toutes les avis, hein, les couleurs...
Alors, lisez l'article et après, à vous de juger.
Oui, voilà, très bien. Bon, c'est bon pour le Motomag de mars?
Oui, tout à fait.
On peut retrouver ça, 132 pages, tu m'as dit. Hein.
132 pages, le numéro 417 dans toutes les bonnes librairies.
Voilà, très bien. Et après, on retrouve Jean-Yves de la Fédération française des moteurs en colère. Toujours sur Radio Campus Lille, 106,6, récit d'une victoire avec le porte-parole de la Fédération française des moteurs en colère, Jean-Yves.
Oui, bonjour à toutes, encore une fois, et à tous aussi, ne soyons pas racistes. Je vais vous parler, pour une fois n'est pas coutume, d'un motif de satisfaction quand même, qui est la circulation interfile, prénommée CIF. Bon, SIF, moi, ça, fait... ça évoque pour moi plutôt de la poudre à récurer.
Moi aussi, c'est ce que j'allais dire.
Sillon interfessier.
Bon. Bon, alors, c'est une victoire,
donc,
Jean-Yves.
En fait, c'est une victoire parce que finalement, en France, ça se pratique depuis les années quasiment le renouveau de la moto. Tout le monde, sur les grands périphériques urbains, fait la pratique de la circulation interfil. Il a fallu quand même très longtemps avant que les pouvoirs publics s'aperçoivent que ça pourrait être bénéfique
du point de vue fluidité du trafic.
C'était toléré, mais pas toujours. Non, non, justement, il y a des exemples sur le périph' parisien où les flics verbalisaient soit pour dépassement par la droite, soit pour non-respect des distances de sécurité, soit pour encore conduite. Quelquefois même, c'était les trois motifs à la fois. Alors que, en fait, le motif réel, c'était la circulation interfil. Déjà dans les années 90, la FFMC a fait des études pour savoir que, ben, finalement, pour démontrer que la CIF permettait de fluidifier le trafic. Après, bon, évidemment, ça a eu plusieurs péripéties plutôt, parce que c'est une idée qui a mis très très longtemps à se concrétiser. Et donc, c'est passé quasiment, disons, tous les 15-20 ans, ça revenait comme un marronnier. Et puis, bon, finalement, en 2025, donc, ça a été étendu à toute la France métropolitaine. Alors, je ne sais même pas si les territoires d'outre-mer y sont accessibles. Je n'en sais rien.
Il y a eu une période de tests et d'évaluation dans les départements.
Dans les départements. Dans les années 2012, il y a eu une première étude menée par le CEREMA, donc l'organisme qui est censé vérifier la conformité des ralentisseurs en voie son efficacité. Donc ça a encore traîné. Il y a eu une nouvelle expérimentation en 2021, où là, il y avait 20 départements qui étaient en test. Dans le Nord. Et dont aussi la région de Bordeaux. Alors là, la région de Bordeaux, il y a un problème, c'est que, parce que c'était aussi la fabrication de son périphérique, donc l'accidentalité a remonté fortement sur la région de Bordeaux, mais c'était la seule zone des zones test qui a eu une accidentalité, c'est dur à dire, qui a augmenté. Alors que tous les autres, pareil, les pouvoirs publics se sont aperçus que l'accidentalité n'avait pas augmenté du fait de la CIF. Donc c'est ce qui a poussé quand même les pouvoirs publics à finalement la légaliser en 2025.
Avec des règles, parce que justement, tu parles de voies en travaux, ça fait partie d'une des règles.
Voilà.
Vous ne pouvez pas rouler en interfile lorsqu'une voie est en travaux ou couverte de neige ou de verglas. Ça, on peut comprendre, mais les travaux... hein, ça me rappelle.
Et puis surtout, ce n'est accessible que sur les voies... Les chaussées avec séparation centrale et à deux fois deux voies, au moins. Et donc, ça ne se pratique que s'il y a trois ou quatre voies, que sur les files entre la file la plus à gauche et celle d'avant.
Il y a aussi du bon sens, Jean-Yves Passieux. Alors, ne pas forcer le passage ou tenter de passer si l'espace entre les véhicules n'est pas clairement suffisant. Ça, on s'en doute.
Non, mais
par contre... En dessous de la voiture, c'est normal.
Daniel, toi qui roules en Iken, forcément, tu ne pourras pas... Si entre les deux voitures, il n'y a pas assez d'espace, avec ton trois roues, tu ne passeras pas, tu ne vas pas forcer.
Nous sommes respectueux, tout ça.
C'est aussi un cas un peu bizarre dans la loi, c'est que les trois roues, donc les sidecars, ont le droit de faire de la remontée de fil, alors qu'en général, il n'y a pas assez de place pour qu'ils puissent le faire. Mais bon, ça, c'est une anecdotique de tout à fait qui montre bien que les gens qui font les lois... Un mètre de large.
Des sidecars d'un mètre, c'est
pas beaucoup.
Et Jean-Yves, ne pas faire de la compétition en interfile. Hein. Il y a marqué ne pas dépasser un autre aux deux roues ou trois roues motorisées en interfile.
Non, mais là,
ça, c'est important aussi.
Parce que là, on va où? C'est aussi un point sur lequel la FFMC se bat, c'est que la notion de partage de la route. Donc il n'est pas question de klaxonner mais comme un con parce qu'une bagnole ne se range pas pour, faire, pour pouvoir la remonter. C'est toujours pareil. Si on se présente, si on conduit de façon raisonnable en laissant la place aux autres, il n'y a pas de problème, on sera accepté. Si effectivement on conduit comme des sauvages en klaxonnant, en gueulant, en filant des coups de latte dans les portières, effectivement, c'est encore, mais ça fait faire appel à l'intelligence moyenne du motard. Et ça, malheureusement, il y a des contre-exemples.
Bon, et aussi, rouler à une vitesse de 50 km/h au maximum. Hein,
exactement, oui.
Et donc aussi, alors, c'est surtout un microcosme parisien. Hein, on les voit rouler à plus de 50. Hein,
oui, oui,
sincèrement, même moi, ils me font peur. Ils sont en moto.
J'étais à l'Assemblée générale de la FDM à Orléans la semaine dernière. On n'est pas passé par le périph' parisien, on est passé par la 86. Il y a des mecs, mais franchement, c'est des donneurs d'organes, donc il en faut. Moi, je ne les prendrai pas s'ils se planquent, parce qu'ils conduisent comme des cons.
Bon, le coup de bâton, c'est si vous ne respectez pas tout ça, c'est 3 points sur votre permis et 135 balles. Voilà l'amende.
Exactement. Mais enfin bon, donc ça, on peut se réjouir de la victoire, mais dans la vie de tous les jours, y a un calendrier. Il y a le calendrier AFDM qui est sorti. Donc le 29 et 30 mars, il y a un stage. Le 26 et 27 avril aussi. Et le 24 et 25 mai, il y a des stages. Alors je vous conseille d'aller voir le...
Ça, c'est l'association formation pour les motards.
Voilà.
L'AFDM.
Le site afdmhdf.org. Où vous pouvez vous inscrire pour un stage parce que vous croyez savoir conduire.
Voilà.
Alors surtout si vous êtes un vieux motard, finalement, il y a moyen largement d'améliorer votre conduite.
Même si on est vieux.
Même
on
si
peut
on est
toujours
vieux,
apprendre.
Parce que
oui, forcément.
J'ai fait mon stage à FDM, j'avais 44 ans de permis et ça a changé radicalement ma façon de conduire. Il faut savoir aussi qu'il y a l'AG, régionale de la MUT.
La mutuelle
d'aide des motards qui se déroulera le 9 mars à partir de 18h30. Au Bacardia. Le Bacardia, c'est juste en face de Moto Blues.
C'est dimanche.
Non, c'est le 3
le
mars.
C'est le 3 mars.
Ah, t'as dit 9.
Non, le 3 mars.
Le 3 mars.
Ok. Le boycott, alors comme dans l'émission précédente, finalement, on s'aperçoit qu'il y a un site très intéressant sur YouTube à aller voir, c'est Mécanica 77, où le mec, c'est un mec, je présume, de Seine-et-Marne, qui fait des émissions sur la moto en général, sur YouTube, et qui s'est aperçu que sur la région parisienne, des cras cassaient littéralement les motos.
Ah bon?
Oui.
C'est-à-dire qu'ils cassaient les motos?
C'est-à-dire qu'ils les faisaient tomber, ils les foutaient sur un banc de roulage voiture, des trucs qui n'étaient strictement pas faits pour. Et donc, je vous conseille d'aller voir Mécanica 77, c'est intéressant à avoir son avis. Et puis, à cette occasion-là, continuons le boycott du contrôle technique, parce que ils vont devoir. Alors déjà, ils devaient s'équiper en avril pour faire s'équiper plus, investissements.
Il va y avoir plus en plus de points de contrôle. Il va falloir acheter du matériel. Les centres de contrôle vont devoir acheter du matériel. Hein.
Et donc là, ils s'aperçoivent qu'ils se goinfraient littéralement à 100 € avec le quart d'heure de contrôle.
Oui.
Là, s'il faut rajouter 20 000 € d'instruments, plus la formation, parce que la formation, apparemment, c'est le gros péché faible des contrôles techniques moto. Ça risque ne pas être rentable pour eux.
Parce que le souci, c'est qu'il y a quand même moins de roues que de voitures. Pour rentabiliser ce matériel où on a investi beaucoup d'argent, ça ne va pas être facile.
Et justement, il y en a beaucoup qui vont abandonner. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de centre disponible, je vois mal un petit gars avec sa mobilette faire 150 bornes pour aller faire son contrôle technique. Il faut continuer à boycotter pour que cette connerie cesse.
Toujours, il y a un site internet de la Fédé à 59-62.
Où il y a les... Alors, on peut rappeler aussi qu'il y a eu hier l'AG de la FFMC 59, excusez-moi. Et donc, allez sur le site pour vous tenir au courant des nouveautés.
69, c'est un bon chiffre aussi.
Faut pas perdre la tête. Hein.
Voilà, c'est terminé, Jean-Yves, pour les infos de la Fédé.
Voilà.
On se retrouve mois prochain, voilà, merci. Voilà, on termine cette émission avec Daniel Torel, notre motard intoxiqué à la Custom Culture. Alors, tu vas nous parler du Niken.
Tout à fait.
Que se passe-t-il ?
Eh bien...
C'est un trois-roues, le Niken, hein,
c'est un trois-roues, c'est une espèce d'ovni. Bon, j'avoue que c'est pas le genre de véhicule qui m'attire, très honnêtement, mais l'âge aidant, je me suis rendu compte quand même que beaucoup de bikers...
Tu rigoles ou quoi ?
Sont à la recherche de confort, de sécurité.
On n'en voit pas sur les routes.
Non, attendez. On va se calmer,
Moi, quand j'en vois, je fais un loto. Hein.
Oui, honnêtement, si vous avez conduit une Goldwyn, le Niken, c'est exactement le même type de comportement.
Ah non, mais une Goldwyn, c'est deux roues.
Oui, mais là, c'est un trois roues, mais c'est une vraie moto. C'est-à-dire, par rapport à un scooter, tu lâches la moto, elle tombe. C'est une vraie moto. Mais surtout, au niveau sécurité, c'est assez exceptionnel. Pourquoi ?
Comme
tous les motards.
Parce que t'as trois roues.
Non, mais comme tous les motards, ce qui est angoissant dans les virages, quand c'est gras, etc., c'est la roue avant. Si ça dégage, c'est chez eux. Tandis que là, le fait d'avoir deux roues à l'avant, t'as une qui rip, l'autre attrape.
Non, parce que tu divises la charge sur chaque roue par deux.
Non, pas tout à fait.
Si.
Pas tout à fait. Écoute, là, je sais, moi, j'ai fait des essais avec mes customs. Dans des courbes, je ne passe pas à la vitesse avec laquelle je passe avec cet engin un peu bizarroïde, je dirais engin futuriste. C'est extrêmement bien conçu, c'est extrêmement confortable, c'est iconoclaste dans le monde de la moto, mais je dirais que ce n'est pas plus con qu'une moto électrique. Parce que là, l'avantage...
Ah oui, là, tu fais des comparaisons, tu fais...
Non, mais on compare un produit comparable.
Là, tu fais un bon phénoménal, c'est pas possible.
Non, mais c'est vrai. Mais en termes d'usage, parce qu'à un moment donné, le fait d'avoir un véhicule plus sécurisant, plus confortable pour des motards qui n'ont plus 20 ans, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et les ingénieurs de Yamaha ont sorti cet engin un peu bizarre, c'est vrai, qui rentre pas dans la conception de la moto telle qu'on peut le voir, mais honnêtement, en termes de confort, de sécurité, c'est impressionnant. Je vous dis, je le sais. Depuis 5000 km, elle est là devant, vous pouvez regarder. C'est assez étonnant. C'est sécurisant, c'est confortable. Maintenant, ça remplit ce cahier des charges, je pense, oui. Est-ce que ça va s'adresser à une population de gens, on en parlait tout à l'heure, qui roulent en roadster, des choses comme ça ? Bien sûr que non. Mais je vous dis, en termes de sécurité, de confort, quand on a un certain âge, quand on a des problèmes de dos, etc., c'est une offre qui existe. Alors, est-ce que Yamaha va continuer à le développer ? Je suis pas certain.
C'est pas sûr. Hein.
Mais, non, je crois qu'ils ont même arrêté. Mais c'est honnêtement, ça vaut le coup d'essayer.
Ouais. Alors ça veut dire que tu as revendu ta R18 pour acheter
un... Non, j'ai toujours. Non. Attends, faut pas exagérer. Non. Mais ceci étant, je suis bluffé, dans le bon sens du terme. D'abord, ça fait quand même 160 kilos de moins que ma R18 ou que mon Harley. Donc tu le sens. Et le moteur, le YAM, le CP3, ça envoie du bois.
Hein. Et ça se conduit avec quel permis ?
Permis moto.
C'est sûr ?
Ah oui, c'est sûr.
Il faut avoir le permis moto pour conduire le...
Oui. C'est pas bridable.
Certain ?
Ah oui, certain.
Je ne vois pas la différence avec le MP3 de Piaggio.
Ça n'a rien à voir.
Non. Ensuite, ça doit coûter beaucoup plus cher à la fabrication parce que t'as 4 fourreaux de fourche, t'as 8 étourches.
Le propos n'est pas de savoir ce que ça coûte là en substance. Là, c'est de savoir quel usage pour quel type de motard. Alors effectivement, on peut faire un PRI, un prix de revient industriel, mais c'est un autre débat. Là, le sujet... C'est de dire, voilà, d'accord, je roule en gros custom, je roule en Goldwyn, je roule en Harley, tout ce qu'on veut. Et j'ai cette offre, cette offre existe. Est-ce qu'elle correspond à un type de motard ou pas ?
Je te dirais que moi, dans mon entourage, des mecs qui commencent à être un peu trop vieux pour des gros custom, ils passent au Can-Am.
Non mais,
Ou alors au Sicar.
Voilà, oui.
Sicar, c'est difficile à trouver. Can-Am,
c'est pas difficile à trouver.
On trouve. Néanmoins, on a quand même l'usage d'une moto, alors que la Can-Am, on est plus proche du side ou d'une voiture qu'une moto.
Et puis on parlait prix, Can-Am... C'était à tes souhaits,
Christophe.
C'est une approbation, ça.
C'est une moto atomique.
Non, mais voilà. Donc, il faut rester dans l'esprit de la moto.
Du cahier des charges,
voilà.
Oui, mais bon.
Mais honnêtement, si on est objectif jusqu'au bout, j'ai regardé un petit peu tous les tests, tous les essais qui ont été faits, 100% regardez, 100% des gens qui l'ont utilisé et qui étaient honnêtement opposés sont convaincus. Ouais. Bon, et encore une fois, moi, je ne suis pas payé ni par Yama, ni par qui que ce soit. Donc, je donne, moi, un avis d'essayeur, entre guillemets, et je ne sais pas ce que j'achèterai encore une fois. Mais c'est bluffant d'efficacité et de confort.
Oui.
Voilà.
Mais et là, donc, là, je te dirais encore une fois que le mec habitué au gros custom, de pour son image de marque, il ne va pas se balader sur une araignée squelettique.
on est d'accord.
Il va s'acheter un Can-Am.
On est d'accord. Bon, néanmoins,
les couleurs, c'est discutable.
Exactement.
Chacun fait un peu ce qu'il veut.
Hein. Oui, non, mais physiquement parlant, je crois que le mec, il préférera quand même continuer à paraître sur un gros cube que sur un truc.
Mais moi, j'avoue que j'aurais du mal à rouler.
Conduise par une mémé.
Très honnêtement. Très honnêtement, moi, je vous parle de mon cas.
Que je pense que techniquement, c'est sûrement élaboré et que c'est très bien roulé. Mais c'est l'idée de rouler sur un tel engin qui.
Je vous parle. De mon cas, j'ai été bluffé. Ouais. Voilà, après, chacun est libre aussi de n'aimer pas aimer, ça, bien évidemment.
Un autre sujet, Daniel, la chute de la Moco.
Oui, alors, vous connaissez ma sensibilité, je vais te dire, ou mon allergie au marketing débridé de certaines marques, soi-disant premium. J'ai regardé le marché, on en parlait avec Christophe tout à l'heure, donc le marché qui était au départ un peu à tonne en début d'année s'est rattrapé à partir du mois d'août, a terminé à plus 8,3% quand même d'évolution de part de marché. Donc c'est plutôt bien, un peu plus de 202 000 véhicules immatriculés. Il faudrait analyser un petit peu tous les chiffres, parce que des fois, il y a des gens qui auraient des surprises, à commencer par Honda, qui veut régenter 50% du marché mondial de la moto, etc. Et j'ai regardé un tout petit peu les chiffres du custom, parce que c'est ce qui m'intéresse et c'est ma passion. J'ai regardé les ventes de Harley et d'Indian. J'ai roulé avec les deux machines, j'en ai encore une d'ailleurs. J'ai regardé, rappelez-vous, il y a 3 ans, on était à 12 600 motos vendues chez Harley en France.
Mais t'as combien de motos dans ton garage ?
Non, j'en ai 4 là pour le moment.
Ah ouais ?
Et là, j'ai regardé les chiffres officiels, donc des IMAT, 4 656 motos chez Harley et 1627, je crois, chez Indian. Alors qu'il y a encore l'année dernière, chez Indian, on était aux alentours de 2000 et chez Harley, on était aux alentours de 6000. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de livraison ? Non, c'est pas un problème de livraison, c'est un problème purement économique. Pourquoi ? Maintenant, quand on annonce des produits avec des prix d'appel, etc., etc., d'ailleurs, les produits les moins chers, on vous vend plus une moto. On vous vend un LOA, une LDD, etc. On vous vend un prix. On vous vend plus une passion, une technologie, une image. Non, on vous vend un prix. D'ailleurs, les concessionnaires sont maintenant intimement, pressés par la maison mère pour vendre des produits financiers. Et ils ont des marges plus importantes sur les produits financiers que sur la vente de leur moto. Enfin, ça, c'est un autre débat aussi. Et j'ai regardé un petit peu l'analyse économique du Nasdaq et, entre autres, de la cotation de Harley. Harley a 3 grandes divisions. Harley Motor, Harley Vêtements et Harley Inc. Quand on regarde quels sont les propriétaires de Harley, ce sont des fonds souverains et ce sont des fonds de placement américains, y compris aussi, il y a même un fonds de pension français, je ne savais pas, qui détient 0,25%
c'est pas beaucoup.
Des actions, des actions de Harley. Mais par contre, le ranking, le niveau de placement au niveau de la bourse américaine, Harley n'est plus dans les 500 premières entreprises. Et avec une chute, ils ont dévissé de 8,3%. Et c'est normal. Donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que pour compenser leur vente, encore une fois, de rajouter des milliers d'euros sur les machines. Alors, c'est simple, 4 700 motos à la louche, divisé par 115 concessionnaires. Imaginez, je crains que demain, il y a des dégâts. Indian, très belle moto, très belle machine, il n'y a rien à dire. 32 concessionnaires pour 1600 motos vendues. Réfléchissez. Donc dans tous les cas, si on fait on lisse les ventes par concessionnaire, Harley vend 40,3 motos par concessionnaire et par an, c'est-à-dire moins de 4 motos par mois. Et Indian est plus performant en termes de vente à la concession, vend 53 motos par an par concession, c'est-à-dire aux alentours de 5 motos par mois. Voilà la réalité économique. Encore une fois, ce n'est pas des sentiments, ce sont des choses factuelles avérées par les IMAT.
Très bien, bah écoute.
La moto est une passion.
Mais on ne vous vend plus de la passion, on vous vend des produits financiers, comme dans la bagnole. Dans la moto, on voit arriver les mêmes tares qui ont tué la passion automobile. on vous vend des produits financiers et on ne vous vend plus la passion.
Très bien, Daniel. On termine, parce qu'il nous reste très peu de temps, donc sur le délire des prix, hein, tu viens d'en parler. Hein.
Ben oui, voilà. Je suis navré, mais moi, je n'ai plus envie de mettre 40 ou 45 ou 48 ou 50 ou 52 000 euros dans une moto.
Oui, c'est pareil. Hein, on arrive à des prix, quand on voit certaines machines, hein, on est à 32, 40, ouais, c'est voire 47 000. Hein.
Le prix d'entrée voilà. Custom, c'est 32 000 euros.
Ouais. C'est terminé, Daniel.
Ben, voilà. Oui, bon, oui, bon. Oui. Ben oui.
Merci pour toutes tes explications. Voilà. L'émission se termine. On se retrouve le mois prochain. Ce sera le 6 avril. Christophe.
Voilà, absolument.
6 avril. Jean-Yves aussi. Mm-hmm. Hein, voilà. Daniel, je ne sais pas.
Oui.
On se retrouve donc. Voilà.
Oui, pour préparer Pâques.
Oui, pour assez Pâques. Oui, effectivement.
Parce que Jean-Yves va nous sortir ses nids de poule pour Pâques.
Effectivement.
Les nids de poule de la Fédé, oui, effectivement. Voilà.
Heureusement que je suis là.
Il y a des traditions quand même.
Ah. Ben, messieurs, merci pour toutes ces informations. Passez un bon dimanche. Au revoir.
Salut. Au revoir. Salut.